Voilà,
donc,
c'est bon.
Pour ceux qui ne savent pas, j'enseigne du commerce international, hein, donc c'est pour situer un peu.
D'accord.
Et j'explique aux gens que les gens, alors je prends l'exemple de Poutine, Poutine il joue aux échecs. Et les Chinois, ils jouent au jeu de Go. Alors ce qui était étonnant, c'est qu'il y avait les fêtes consulaires à Lyon en juin, et les Chinois, alors je dis qu'il faut bien comprendre, les Chinois avaient installé 5 tables de Go pour apprendre aux gens qui participaient à cet événement, les fêtes consulaires, ça vaut le coup d'y aller, un jour qui s'intéresse dans différents pays, et ils apprenaient aux gens à jouer au Go. Et je trouvais que c'est assez merveilleux qu'ils disent ça, parce que c'est vrai que si on voit dans le domaine politique, actuellement, c'est vrai, les deux exemples, quoi, c'est au niveau politique, mais ça a d'autres reflets, quoi. Poutine, il joue aux échecs, alors que les Chinois, ils jouent au jeu de Go actuellement. Avec les routes de la soie, enfin bon, après, je trop loin.
C'est un jeu de société de technique d'encerclement.
Oui, d'occupation.
D'occupation d'espace.
Oui, oui, d'occupation d'espace. Mais pas de vouloir mettre l'autre en échec,
c'est
mais
ça.
Petit à petit.
Exactement. Ouais.
Mais j'aime pas le mot encerclement, excuse-moi. Mais
ah, oui, ou de...
Ouais. Non, mais je... excuse-moi. Hein,
je... Ouais, je t'en veux.
C'est d'occupation du terrain.
Ouais,
quoi. Ouais. Oui, on peut pas... Les gens qui comprennent pas ça... les routes de la soie, toutes ces... enfin, moi je suis en plein dedans, quoi, du coup.
Mais ça explique aussi, voilà, c'est là aussi où c'est un tout, quoi, c'est un tout, et quand on rentre aussi dans ce type de, comment dire, de soins subtils, en fait, ça devient aussi très, aussi c'est l'une des limites et de la fragilité, c'est ça devient très poreux avec le, bah, l'environnement social, donc il faut un environnement social et culturel qui soit ouvert à ça, un environnement politique, et ça devient totalement malléable en fonction des changements sociaux et politicaux. Donc ça c'est très clair en Asie, que c'est, mais, c'est, mais on le voit aussi dans l'évolution actuelle de... J'ai discuté avec une amie, une collègue là, qui a beaucoup travaillé à Madagascar et qui voit un peu les mêmes problématiques aussi se profiler. Elle a vu l'évolution de la médecine traditionnelle à Madagascar, en fait. Et elle disait que, eh bien, en fait, comment dire, voilà, il y avait une tentative de revalorisation, mais politique, de la médecine traditionnelle locale, donc suite à des mouvements, et ce qui était louable. Mais donc, dans cet effort-là, on a voulu former, en fait, les gens, reformer, en fait. Alors que, bon, par essence, ces pratiques-là, c'est la complexité aussi. C'est souvent déligné, ça souvent peu été formalisé, en fait. En tout cas, à Madagascar, c'était pas le cas. Donc, des écoles ont été formées. Mais finalement, ces écoles apportent un espèce de standard, une standardisation des pratiques. Et c'est un peu toujours la confrontation, en fait, de ces systèmes-là, en fait, c'est que quand on arrive à une notion de vouloir former, de normaliser, et ben on retombe avec des standards qui vont souvent un peu chasser ou épurer la diversité, la singularité de chaque thérapeute aussi.
En fait. Après, il faut dire que c'était trop venir aussi avec le temps. Quoi.
Alors voilà, il y a tout un...
C'était de se recadrer pour à nouveau se réélargir après.
Ouais.
Il y a besoin de se réveiller.
Oui, c'est vrai.
Un peu optimiste.
C'est vrai.
En attendant, c'est vrai que ça fait souvent des pratiques, des approches un peu plus élitistes. Du coup, ben, tout d'un coup, alors que c'était très populaire, et là, ça devient même très cher. C'est voilà, un truc qui est complètement déplacé, en fait.
C'est l'exemple de pour finir voilà, sur Madagascar, c'est que maintenant... Ça a été revalorisé et la majorité des produits, des plantes traditionnelles sont achetées en Europe. Elles sont trop chères pour qu'elles soient achetées en fait. C'est des produits qui sont, ne peuvent plus être achetés par les locaux en fait. Donc c'est un peu le comble de cette machinerie. Bon, mais qui aussi. Après, c'est là où il faut. C'est vrai aussi, il faut. Comment dire. Je pense qu'il y a des fois, il n'y a pas de volonté de faire ça, mais c'est là. La complexité humaine, il y a un effort, une intention qui peut être à la fois bienveillante, en fait, contraint une conséquence de cascade de choses qui sont un peu déplorables, en fait. Bon, en tout cas, pour cet exemple de médecine.
Je sais. Mort. Après, 21h, d'accord. Moi, j'avais une question.
Oui.
Est-ce que quand même... Si on prend des jeunes chinois et des jeunes français qui découvrent donc cette pratique, est-ce que pour les jeunes chinois, c'est pas plus facile du fait que c'est dans la même énergie que beaucoup de choses finalement dans leur propre poésie qui est culturelle, je veux dire, même j'ai fait un tout petit peu de calligraphie, pour moi c'est, c'est pareil, c'est dans une même logique, on a parlé de leur écriture, enfin voilà, j'ai parlé de la décoration, et donc est-ce que du coup ils captent pas plus rapidement cette philosophie et donc une qualité tout de suite dans le mouvement et donc dans les répercussions sur leur corps
Alors, je vais encore faire une réponse de Normand. Mais, oui et non, parce que, en fait, oui, parce que tout de suite, je vois, quand justement j'ai commencé ces cours de danse avec eux, je commençais à leur parler de Chikwan Itachi, j'ai vite compris qu'en fait, si je focalisais trop là-dessus, ça les bloquait, parce que pour eux, ils venaient pas chercher ça, ils venaient chercher la danse occidentale, ils me voyaient, j'avais cette orientation-là, enfin, il fallait que je parle de leur orientation, quoi. Et c'était l'une de l'origine des stages que je donne aujourd'hui qui m'ont amené de la danse au Qigong, enfin, créer une pratique, voilà, de danse du souffle. C'est que j'ai dû m'adapter donc à partir de leur présentation, donc codifier des mouvements typiques de danse moderne, un pas à gauche, un pas à droite, un mouvement. Hein, mais en incluant, je suis parti de mouvements que je connaissais de Qigong en fait, mais juste changer le rythme. Hein. Vous prenez un mouvement de Qigong, vous changez le rythme, vous faites de la musique. Déjà, voilà, y a une frontière qui est passée, entre guillemets. Quoi. Mmh. Comme quoi, vous changez juste la musique et vous changez le rythme. Et vous pouvez faire la même gestuelle, déjà. Mais ils sentaient rapidement, ils disaient, mais ça fait tai chi. Enfin, ils sentaient le truc, quoi. Ils sentaient la qualité, quoi. Parce que tout de suite, ils l'avaient. Effectivement, ils l'ont, quelqu'un. Donc, ils le sentent rapidement et on sent qu'ils l'ont. Mais après, je dirais non, parce qu'en fait, justement, il n'y a aucun intérêt, aucune motivation pour eux de rentrer là-dedans. Mmh. Donc, dès qu'on les met en position vraiment de faire, ils sont incapables ou ils font très mal parce que voilà, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de. Et inversement, paradoxalement, c'est vrai que j'ai été surpris, moi, ça m'a fait cette impression-là quand je rentre en France, mais en fait, on a des très bons systèmes de formation dans ces pratiques maintenant parce que les gens qui sont arrivés en Europe, c'était souvent des professeurs voilà, qui étaient assez motivés, puis les premiers lieux de formation, il fallait quand même tenir la baraque, il fallait amener quelque chose de qualité. Et puis les en tout cas en France ou même en Allemagne, les gens sont passionnés, se mettent dedans à fond quoi. Et donc il y a au contraire une, c'est peut-être la chance aussi des fois du voyage, eux-mêmes je vois comment ils ont intégré l'œnologie en fait, actuellement, enfin ils s'intéressent au vin, alors ils partaient vraiment de très loin, mais je vois la vitesse où ils vont et comment nous on a été très loin en fait dans ces pratiques-là aussi. Il y a des parcours, des croisements assez étonnants. Et plutôt aussi, enfin, qui sont assez vraiment surprenants et qui sont plutôt aussi rassurants sur le. Enfin, qui viennent gratter aussi un peu notre identité, je trouve. Parce que je voyais souvent des Chinois qui disaient. Justement, c'est aussi des pratiques traditionnelles. Et au bout d'un moment, il y avait toujours ce discours. Oh oui, mais vous êtes étranger, vous ne pouvez pas comprendre. Et c'était une espèce. Et c'est un peu pareil que nous, on dirait oui, bah, il est chinois, il va pas sentir grand chose au vin. Quoi. Il y a une espèce de réflexe comme ça. On est quand même très ancré avec des objets culturels, des choses où on s'identifie en fait. Et je me suis aperçu que. Ben, en fait, non, ça bougeait en fait. Avec le temps, ces pratiques, elles voyagent. Alors c'est vrai qu'il y a une généralité qui fait qu'une majorité de Chinois, s'ils boivent de la piquette ou un bon vin, peut-être qu'ils font enfin la grande différence. Mais j'ai croisé beaucoup de Chinois qui vraiment prenaient les choses au sérieux et qui étaient capables de faire des descriptions que je n'étais pas capable de faire quoi, sur du vin. Voilà. Et inversement, moi je vois aujourd'hui des gens qui pratiquent et qui ont une capacité à parler de la pratique parce que justement ils sont décentrés, ils sont moins... ils ont moins le problème de bah, mes grands-parents en font, donc je ne vais peut-être pas en faire. Enfin, il y a moins de complexe en fait, sur aussi, quand on intègre une pratique. Mmh. Et les jeunes, par contre, étaient à fond dans le yoga, parce que le yoga, c'est indien, et donc ça les décentrait aussi. C'est incroyable comment chaque culture va s'approprier des outils voisins, parce que ça les faisait voyager, en fait, aussi, tout simplement. Quoi. Eux, c'est les étudiants chinois, et cette jeune génération, ça les faisait voyager, quoi. Je le voyais, en fait, de s'intéresser au yoga. Donc, oui et non, en fait, c'est vrai qu'on a les dispositions, ils ont les dispositions culturelles pour l'avoir spontanément, mais de fait, de l'évolution sociale dans laquelle ils gravitent actuellement, et bah, ils n'ont pas les ressorts pour vraiment approfondir ça, mais ça va les emmener vers d'autres pratiques. Et inversement, nous, bon voilà.
Je sais pas si je suis très clair, mais... veut dire qu'il y a une perte quand même.
Dans la transmission ?
Dans la transmission,
oui. Oui, c'est une grande question, ça. C'est vrai que, bon...
Mon expérience, hein, puisque nous, si j'enseigne à des Chinois, très souvent, ils veulent vraiment aller de l'avant et tout ça. Mais, c'est un peu ce que tu dis, mais moi, c'est pas dans moins d'activité physique, mais ils sont très, très reconnaissants si on fait référence à des choses anciennes de la Chine. Parce qu'ils n'aiment pas du tout... que nous les Occidentaux, on dit c'est notre histoire, c'est que notre histoire. Alors ils aiment beaucoup, beaucoup, entre autres, les premiers cours que j'avais fait, j'avais éliminé mes exemples que je donne aux autres étudiants avec des choses chinoises, et là je les rajoutais, et là je vois qu'ils ont un grand sourire. Ils voient que je fais référence à la culture chinoise qui peut très bien s'appliquer au modernisme, tout ce qui est Internet, tout ça, mais que ce n'est pas incompatible. Et on aurait tendance... nous, de dire, c'est un peu ce que tu dis, hein, je le reformule d'une autre façon, mais dans un autre domaine, de dire, c'est tout des choses à nous, c'est bien. On dit non, là où on en est aujourd'hui, on peut très bien trouver des racines dans la culture chinoise, et ça, ils sont très très reconnaissants qu'on reconnaisse que la Chine, ça a été un grand pays, c'est un grand pays, et ça le sera encore plus grand. Hein. Ils ont quand même cette idée qu'ils ont quand même envie de dominer un peu le monde. Hein. Moi, je vois les jeunes qui viennent... puisque moi je les vois en France, hein, ils ont vraiment, ceux qui viennent, c'est qu'ils ont vraiment envie d'être devant. Hein, l'objectif d'être avant les États-Unis, ça compte. Mais je suis pas en contradiction avec ce que tu dis là, hein, tout simplement.
Non, c'est sûr qu'il y a différents niveaux de génération qui se jouent, comment dire, et puis effectivement qui aussi se jouent. Bon, alors après, c'est le débat. C'est vrai que ça, c'est le débat plus politique, donc peut-être qu'après, je vais revenir sur le... Mais c'est le débat...
Mais c'est le faire de la politique, hein, c'est non, ça fait longtemps que tu m'aurais viré, là.
Mais c'est effectivement... Mais c'est l'enjeu de ces pratiques actuellement, enfin, qui se joue même jusqu'à la faculté de médecine, où je suis arrivé avec une collaboration entre un institut de Shanghai et la faculté de médecine. Et je vois que tout se joue sur l'évolution de ces disciplines, sur l'enjeu, l'ambiance diplomatique actuelle, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des fois une perte de confiance sur... et qui relie tout ça en même temps. C'est ça qui est très complexe, en fait. Qui relie des fois, ce que je disais tout à l'heure, un art de ne pas aller à la confrontation. Donc des fois que nous, on va attendre ces silences dans un dialogue sur une formation, on attend des contenus, on ne va pas comprendre pourquoi il n'y a pas de réponse. Voilà, c'est des arts de communiquer qui peuvent être interprétés autant sur le plan de la pratique que sur un plan parfois politique. Et c'est vrai que c'est ce qui fait la force, c'est vrai, de la culture chinoise. Et c'est ce qui fait aussi, des fois, la complexité à s'en comprendre.
Et du coup, il y a la fac de médecine. Comment ça marche, en fait? Comment vous arrivez à... Quelle place vous arrivez à...
Alors, concrètement, là, le... Concrètement, en fait, on a monté un petit UE, une unité d'enseignement, qui s'appelle Prévention à la santé par la médecine chinoise et le Qigong. Donc c'est en collaboration avec cet institut, la Shanghai. Voilà. C'est pour l'instant, ce n'est enseigné qu'à des étudiants, en fait, en médecine. C'est entre la deuxième et la cinquième année, ils peuvent prendre cette option-là. Et donc au cours de ce module, je leur fais des pratiques à le Qigong, ils ont des notions générales sur la médecine chinoise. Et après, l'objectif général qui est annoncé, c'est on n'est pas là pour les former ou qu'ils ont prof de Qigong ou médecin chinois, c'est juste qu'ils aient
une ouverture
sur comment ça fonctionne, en fait, quelle est la perspective d'un médecin chinois, et aussi éventuellement comment, s'ils se retrouvent avec un patient qui leur demande, qu'ils sachent un peu orienter, qu'ils sachent en fait, de quoi on parle.
Ils sont nombreux à venir.
Et ouais, on était débordés la première année, puisqu'on a 50 places, on avait 300 membres. C'était plutôt une belle surprise, en fait. Et du coup, bon là, ça se tamise avec les années, mais on est limité à 50.
Il y a quel âge, du coup?
C'est la troisième année, on commence à travailler. Et là, on passe à une autre étape où il y a un module qui se crée, qui est le module de médecine intégrative, donc maintenant, qui va ouvrir à d'autres pratiques, en fait, de soins. Voilà, et on reste je pense que, et peut-être qu'on verra fleurir des choses qui iront jusqu'à l'artistique prochaine, bon, on en est encore un peu loin, dans l'enceinte de l'institution, mais je pense que ça arrive parce que il y a ce phénomène de la crise actuelle, dans le système hospitalier, je le vois, beaucoup de services dans les hôpitaux, ils sont en demande de personnes cadrées parce qu'eux-mêmes peuvent plus prendre, enfin ils n'ont plus le temps de prendre en charge. Donc s'il y a des gens, s'il y a un prof de Qigong ou qui vient dire bah, je peux venir faire un cours pour les personnes, c'est ce que j'ai fait hier, ils suivent un traitement en cancer, ça nous aide. Donc il y a une espèce de porosité qui fait que la vulnérabilité actuelle du système, l'aide de ces pratiques est là. Et en plus, il y a une nouvelle génération, en fait, je pense. Là, je suis très surpris par une nouvelle génération des étudiants qui connaissent tout ça, quoi. Enfin, ces pratiques-là, ils connaissent et ils savent que, en fait, juste pour la culture générale, il faut un minimum qu'ils connaissent, quoi, en fait. Parce qu'ils vont être en face de gens qui vont leur parler de ça, ou voilà. Donc, je pense que pour répondre, c'est l'une des explications pour moi du développement actuel qui reste mineur, mais de ces pratiques-là au sein de l'institution médicale telle qu'on la connaît, quoi.
Moi, je trouve ça assez logique parce que finalement, c'est super intéressant le fait que nous, l'histoire de la médecine s'est créée sur des morts. Alors qu'il y a un truc, moi je ne suis pas médecin, mais qu'on m'a appris dans ma pratique à moi, c'est que tout ce qui stagne, ça meurt, ça s'infecte ou ça disparaît. Donc effectivement, qu'on revienne à... maintenant on parle de médecine holistique, peu importe, mais qu'on revienne au souffle qui est quand même la base du mouvement de la vie.
Oui.
C'est tellement évident qu'on se demande pourquoi on a mis autant de temps.
Puis on soigne.
Et je crois que ce qu'on voit là, il y a beaucoup de pratiques qui sont faites par des non-médecins, mais on se rend compte que les personnes, elles ont envie d'être touchées, elles ont envie de bouger. Elles ont envie de ça, et c'est vrai que souvent les gens disent je suis allée chez mon médecin, il m'a à peine parlé, il m'a pas ausculté.
Oui.
Et moi je fais du postural, et les gens ils adorent parce que je les fais bouger, parce que je regarde comment ils bougent. Parce que...
Oui, c'est une façon de connaître la personne d'ailleurs.
Oui. Mais oui, mais même.
De rencontrer.
Et puis c'est tellement.
Ça paraît naturel, c'est vrai.
C'est tellement ça semble tellement naturel,
oui,
en fait.
C'est étonnant qu'on ne le fasse pas, effectivement. Est-ce que c'est
parce qu'il y a des gens qui
est-ce que c'est une espèce de d'hésitation, enfin je sais pas
Moi j'ai pas de culture de ça, je me rends compte en m'écoutant, je suis pleine de clichés, donc je vais pas m'exprimer, je suis vraiment pleine de clichés, c'est terrible. Donc j'ai du mal à exprimer ça. Oui. Mais ça me semble tellement prendre du sens,
oui, c'est vrai.
Danser, guérir, on en parlait avec toi tout à l'heure, bouger, vivre.
Se regarder. Sûr que le mouvement, c'est la partie de la vie.
On parle de... Là, il y a des gens qui disent, je ne suis pas dans l'interprétation, c'est j'entends des médecins en médecine de réadaptation qui disent, mais moi je reçois des gens de 30 ans qui ont des pathologies de gens de 70. Et on appelle ça les pathologies de sédentarité. C'est juste des gens qui ne bougent pas, quoi.
Mais ça c'est.
Après, dans ce que tu dis, c'est aussi très lié à la perception qu'on a du corps aussi comme étant une frontière, quelque chose.
Ouais.
D'à part un objet séparé et avec un espèce de tabou.
Un assemblage d'organes.
Oui, mais au-delà de ça.
Plus ou moins relié.
Oui, mais même dans le fait qu'il n'y a pas ce. Il n'y a pas ce réflexe, si tu veux, d'aller dans le contact, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que le corps doit rester un objet distant, quelque part, et dans un espace qui lui est propre, si tu veux. Il y a quelque chose de peut-être plus territorial, en fait, dans notre conception du corps, j'ai l'impression, en Occident. Là, même ce que tu décrivais sur ces pratiques, là où, en fait, le corps fait partie d'un ensemble, lui-même, cet ensemble devient lui-même un organisme vivant, etc. Les gens s'approchent, ils font des... Tu vois. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, où, nous, on a vraiment le corps frontière, quoi, j'ai l'impression.
On peut faire des choses avec son corps, et des choses qu'on ne doit pas faire. Il y a vraiment une cassure entre les deux. Et on n'écoute plus la sagesse du corps qui, lui, a priori, doit savoir tout. On l'écoute plus, quoi.
C'est comme quand on soigne.
Je crois qu'il y a vraiment un truc là.
On est dans une médecine où on soigne le corps, on soigne la pathologie, mais on ne va pas soigner les racines.
Donc d'ailleurs, y a, par exemple, des cancers et tout ça, ça revient parce que en fait, on n'a pas soigné les racines du cancer qui sont souvent plus psychiques qu'en soi de manière physique. Et donc, par exemple, dans d'autres médecines, enfin, je sais pas, peut-être la médecine chinoise, mais souvent on va aussi sur les points d'apuculture ou plein d'autres trucs comme ça, on va regarder là où ça bloque en fait. Et.
Encore voilà. Les portes qui gênent
ou les flux d'énergie ou les
circulations
avant que ça devienne cancer.
Disons qu'il y a
et que ça passe dans le corps quoi.
Ce qui est vrai, c'est que oui, s'il y a une relation à l'autre qui est différente et ça rejoint c'est l'idée de la notion de quel corps on vit quoi, quel corps on se représente au quotidien et effectivement et je rejoins ton constat aussi, c'est que je pense que c'est un constat que j'entends dans le milieu d'un système officiel. Une collègue qui dirigeait le service de réadaptation fonctionnelle respiratoire, elle a dit au cours de ma carrière, je suis parti, plus ça allait, moins je passais de temps devant mon patient et plus je passais de temps devant mon ordinateur. Oui, et j'ai jamais déserrié ça. C'est le système d'organisation de l'hôpital qui a voulu ça. Et parallèlement à ça, on voit de plus en plus de gens qui vont vers ce type de des autres. Qu'on a appelé thérapie alternative, maintenant qu'on appelle complémentaire, parce qu'on les accepte de mieux en mieux, parce qu'ils vont d'abord chercher de la relation. Ils vont chercher la relation qu'on a pu, en fait, qu'on avait avec le médecin il y a une époque. Et je crois qu'effectivement, la notion de.
Thérapie non médicamenteuse, on en parle maintenant dans les universités de médecine. Oui. Thérapie non médicamenteuse. Oui.
Et le contact aussi, juste avoir, je vois ça en Qigong ou dans notre pratique, juste avoir un feedback sur soi, sur son corps, personnel. Mais en fait, je crois que c'est l'une des premières, enfin en tout cas je sais pas, mais de l'expérience, c'est l'une des premières choses qu'on voudrait savoir, même que ce soit un pratiquant de fonction, on est friand de savoir bah, est-ce que je suis bien placé, comment je me place, et pas avoir la théorie en fait. On vous dit, ah bah là, il faut faire comme ça. Puis après voilà, vous avez l'image idéale et vous avez vous. Et après, ce qu'on aime, c'est avoir la relation sur soi, avec le feedback.
Tout vient du mouvement, parce que le mouvement en fait c'est... on a tendance à dire le mot, à penser le mouvement pour aller quelque part. Alors que le mouvement, c'est avant tout pour aller vers soi. J'ai appris ça aussi dans une formation que j'ai fait autour de la fasciathérapie. Et voilà, c'est mouvement, art, expressivité. C'est comment quand je bouge le bras, je pense pas à la chose que je vais prendre. Je pense à comment se déplace ma main, comment s'ouvre mon coude, comment se lève mon bras. On ne pense pas assez à nous, en fait. On revient,
Et d'ailleurs, le corps, du coup, oublie ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'épaule, et en fait, ils souffrent de... Il y a un nom, de dyskinésie. C'est-à-dire que l'épaule, c'est un mouvement hyper complexe. Il y a plein de muscles qui coordonnent et qui ont des fonctions différentes en fonction du niveau de là où est l'épaule. Et en fait, les muscles, ils ne savent plus coopérer. Donc les gens ne peuvent plus bouger leur épaule normalement.
Parce qu'ils ne bougent pas, justement.
Alors après, je sais pas, mais en tout cas, le nombre de personnes qui souffrent de dyskinésie, qui sont en charge par des physiothérapeutes, alors après, il y a du Feldenkrais, il y a du Tai Chi, il y a des
choses qui
reconscientisent le mouvement pour réapprendre au système inconscient du mouvement à coopérer.
Alors après, ça veut dire qu'on n'a plus conscience de son corps du tout. On est obligé de réapprendre par la théorie. Qu'est-ce que j'ai qui doit bouger comme ça? C'est vraiment.
Oui, c'est ça,
Mais moi qui fais de la gymnastique tous les matins, je sais comment fonctionne mon corps. Tous les matins, 55 minutes.
C'est bien.
D'ailleurs, tu parlais. Parce que tu as parlé de l'immobilité à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a une dialectique entre l'immobilité et le mouvement, justement, et moi, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup. Et j'aimerais savoir. Voilà, quelle est la conception de l'immobilité qu'on peut retrouver dans ces pratiques et qu'est-ce que ça apporte peut-être en termes de qualité, d'attention, de présence ou autre, et qu'apporte le mouvement et où est le point de ralliement entre les deux. Voilà, c'est une problématique qui m'intéresse beaucoup, cette notion d'immobilité aussi dont tu parlais.
Alors c'est une question très intéressante et importante, c'est-à-dire... Dans toutes ces pratiques de mise en mouvement, effectivement, l'un des exercices fondamentaux, c'est des pratiques statiques. Donc, celle qu'on connaît le plus, c'est la méditation en assise. Mais en Qigong, on a une posture de l'arbre. J'ai évoqué tout à l'heure l'arbre. C'est qu'il y a une posture statique, en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que, d'ailleurs, je vais, ça peut être ma proposition de partage final, de partage, mmh. on va se faire un petit temps, on va un petit essai, voilà, on va faire une forêt. Je vous propose d'essayer, et la complexité de ces exercices, mais enfin, la simplicité, en fait, c'est tellement simple que ça pose beaucoup de complexité. Donc, c'est des essais. Donc, la posture de l'âme, on est debout, et on est en position, on a les bras, les deux jambes, on va pouvoir le faire en assise. Et on voit que dans cette position-là, en fait, rapidement, il y a une. En tout cas, quand on est debout, il y a une espèce de tension douce qui s'installe parce que, en fait, on est juste debout, mais on est dans une position où on ne bouge pas et il y a une espèce de, voilà, de tension progressive qui s'installe. Et donc, au début, on le fait quelques minutes et, en fait, quand on pratique, après, on le fait 20 minutes, 30 minutes, voire plus. Et c'est l'une des pratiques fondamentales, on dit, de circulation, vraiment, de montée aussi de l'énergie. Et on le sent en fait, au bout d'un moment, quand on a la posture, ça fait un peu comme cocotte-minute. Et c'est un peu le but en fait, on cherche ça, mais on cherche à le maîtriser, c'est-à-dire par le souffle justement, à d'abord laisser venir cette... on n'est pas couché, on n'est pas allongé, on est dans une position naturelle d'activation du corps, et en même temps de trouver une manière de faire circuler dans cette immobilité, en fait, le souffle, et puis le corps. Et en fait, le corps ne bouge pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, il se passe plein de choses. En fait.
Le mot activation,
c'est ça le lien respiration, entre le... Et puis, il y a plein de micro-réajustements, justement, qui se produisent, qui vont développer cette conscience temporelle, et puis aussi cette capacité, et là, je pense, ça rejoint... et c'est là où ça touche aussi les danseurs avec qui je travaille, et ça rejoint, je pense, beaucoup de phénomènes, enfin, si on vient... La question de la poésie, en fait, c'est que après la capacité à résister, et je le vois pour les personnes qui commencent, il y a un aspect physique, mais il y a un aspect aussi sur l'idée qu'on va faire une posture statique, et en fait, au bout d'un moment, l'esprit s'ennuie, en fait, il ne sait plus quoi faire. Quoi. C'est ça qui est très dur, en fait. Et en fait, plus on pratique, plus on s'aperçoit qu'on peut faire voyager l'esprit, en fait. C'est-à-dire que l'esprit peut voyager sur la respiration. On peut voir aussi l'équilibre général, on peut porter attention sur la sensation intérieure des volumes. Enfin, il y a plein de micro-ajustements où l'attention peut voyager. Et en fait, qui va créer plein de micro-réajustements qui ne sont pas perceptibles. On est toujours immobile, mais en même temps, ça bouge à l'intérieur. Et on voyage, et du coup, il n'y a pas de stagnation, tant dans la pensée que dans le corps, en fait. Et ce qui va faire que la posture va devenir une posture d'âme, on respire quoi, en termes de talons jusqu'au...
Est-ce que dans la culture chinoise, ils parlent d'esprit ? Parce qu'en fait, on a cette espèce de clivage corps-esprit qui nous parle, mais dans la mesure où la perception du corps et la culture avec le corps est différente, est-ce qu'ils ont un autre mot que le nôtre qui pourrait vouloir dire autre chose que esprit ? Âme, mental, on a plein de mots, psychisme, on a un vocabulaire comme ça qui fluctue. Là, vous avez employé le mot esprit, c'est pour ça que je rebondis. Mais
oui.
Je sais pas.
Alors, c'était le diapo que j'avais, mais dans la trilogie, ils ont plutôt, voilà, dans les pratiques traditionnelles, on a vraiment une trinologie. On a le jin, c'est l'essence corporelle, donc c'est la structure physique, mais vraiment aussi c'est en termes de substance, quoi, physique, matérielle. Le shen, qui va être traduit par, le meilleur mot, c'est conscience, un phénomène de conscience ou de mental, mentalisation. Et puis le chi, donc le chi, le souffle, qui va être par essence, la substance de lien entre l'environnement, l'énergie extérieure et l'énergie intérieure. Et le chi qui va nourrir, qui va faire le lien tantôt entre la substance matérielle de l'être, qui va être la partie physique, et la substance volatile, invisible, qui va être ce qu'on va être par esprit, effectivement, qu'on pourrait, effectivement, là après, ça pose des questions de définition, parce que ce shun, effectivement, pour le coup, ça peut être tantôt, on peut tantôt l'interpréter, dans le taoïsme aussi des âmes. Mais c'est vraiment ce chi qui va faire le lien, et là c'est très clair en fait, c'est que on a dans l'être, on a une partie physique et une partie non physique, voilà. D'ailleurs dans la définition du chi, le chi, je ne l'ai pas là, mais j'ai pas une feuille de papier, mais vous avez sur le signe du chi, vous avez un grain de riz. Vous avez un grain de riz et vous avez, si je le fais, ça définit. Donc ça c'est le Ça, c'est le grain. J'aurais dû faire plus gros. Ça, c'est le grain de riz, mi. C'est mi. Ça, c'est le chaudron. Ça va symboliser le chaudron. Donc, le signe qui est là. Ici, ça, c'est le chaudron. Et au-dessus, ça va être la vapeur. Et en fait, dans le caractère du sou, vous avez déjà tout. Vous avez le riz, qui est la substance matérielle. Dans le chaudron, cuit, devient une vapeur. Donc, devient une énergie volatile. Quoi. Et voilà, ce chi va faire le lien. Et cette image est quand même assez magnifique parce que c'est, voilà, c'est aussi très pratique. Quoi, hein. C'est vraiment la cuisson de l'élément matériel qui dégage une énergie volatile, mais qui reste une énergie. Et ça représente ce va-et-vient entre le corps et l'esprit, justement. Et c'est pour ça que le chi va être central dans la régulation. Et après, la pratique, on va la définir comme une régulation. Donc du coup, du mouvement ou de la posture, donc cette partie, donc par le mouvement, on va activer ou réguler cette dimension physique. Par l'attention, on va orienter les phénomènes mentaux, et surtout par le souffle. Le souffle qui est d'abord très... Et c'est là où on rentre d'une conception aussi assez physiologique. Le souffle, bon, je respire avec les poumons, mais petit à petit, c'est plus... dans la pratique, on dit que c'est plus que la respiration. Mmh. C'est une sensation du corps entier. Mmh. Une image, ça serait la capacité à sentir. Et ça, c'est un exemple de perception qu'on peut développer, qu'on respire avec la peau. Mmh. C'est quelque chose qu'on n'a pas ou qui est très difficile. Moi, je l'ai peu. Mais dans la pratique, je suivais un docteur. Lui-même, il arrivait vous voyez, dresser les poils. Cette sensation. En fait, quand on a les poils qui se dressent, vous voyez, quand on
a une froid.
Quand on a froid ou quand on a une émotion particulière, hop, on a les poils. C'est et c'est une stimulation très particulière de la peau, en fait. Oui. Et c'est très intéressant, en fait, quand on fait ces postures-là, de sentir, en tout cas, sans prétendre le maîtriser ou le contrôler, d'approcher d'une nouvelle sensation qui sont standard. Mmh. Et voilà, qui vont donner une autre vision, encore une fois, qui vont déplacer l'idée qu'on a de cette respiration qui est là dans nos poumons, qui est le corps entier qui respire et qui s'imprègne en fait du milieu qui nous environne. En fait.
Il n'y a aucun clivage finalement.
Oui, qui a une porosité entre.
Oui, c'est ça.
Entre l'expiration, moi je me dis, il y a aussi le souffle, on inspire et après on a de l'inspiration avec le psychisme. Je me dis, il y a déjà aussi un lien à ce niveau-là.
Oui.
Et puis après l'autre.
Oui.
Et c'est pour ça qu'on peut avoir des courbatures en méditant, non?
Ben oui, parce que. Bon, il y a des postures aussi à acquérir et c'est comme. Ouais. C'est une réalité aussi de ces pratiques, c'est que même si elles sont douces, c'est comme tout, quoi. C'est comme quand on veut faire un marathon, et ben il faut y aller par étapes. La méditation, on va jamais faire une heure comme ça un seul coup, parce que sinon on va se faire mal au dos.
C'est beaucoup plus dur qu'on croit, on est resté.
Ben oui. En fait, il y a un aspect physique qu'il faut intégrer, qui va permettre, exactement, qui va donner une structure à la capacité, à l'esprit à se poser, en fait. Si vous voulez, je peux partager une petite posture avec vous.
On ne se mettrait pas dans l'entrée,
là. Si, c'est
capable. Juste avant d'entrer dans la corporéité, est-ce que d'autres personnes ont quelque chose à ajouter, à dire, à partager?
Parce qu'après, ça va être la fin. En fait, j'aurais voulu en savoir un peu plus sur la danse intermédiaire entre le Qigong et la danse.
Oui.
Et c'était en fait ce qui m'a attiré ici.
Oui.
J'ai vu une vidéo sur le net.
D'accord.
Et du coup, vraiment, je me suis dit, ça a l'air d'un truc génial. Parce que c'est vraiment entre la danse et puis tout ce qui travaille sur l'énergétique, etc. Oui. Et du coup, ça. Voilà.
Ben oui, c'est vrai que c'est ça, c'est voilà, c'est le ce que je vous ai présenté, c'est vraiment typiquement de ce que je vais les premières choses que je présente quand je suis dans un cadre institutionnel, en tout cas en étudiant médecine, ou quand je débat finement sur les expériences vécues. Après aujourd'hui au quotidien quand je suis en stage, voilà, j'ai des stages tous les mois. Ce que je pratique, c'est très concrètement, je pars de mouvement de Qigong comme on a pu faire et progressivement je vais vers la danse mouvement. Et c'est ce que je nomme en fait la danse du souffle, en fait, pour la caractériser, en fait. C'est-à-dire que ça rentre dans la famille des danses. Tantôt, j'ai beaucoup été influencé par la danse contemporaine, par le monde de la danse contact, par différents mouvements de danse libre, en fait. La singularité, c'est que là, on va vraiment rentrer par les mouvements de Qigong, donc des mouvements lents, Et aussi, ce qui me paraît intéressant, c'est que c'est accessible. C'est-à-dire qu'on fait, tout le monde peut. Vous voyez, le mouvement qu'on a fait tout à l'heure, il y a très peu de limitations, en fait. A priori, on peut le faire très facilement. Et de là, progressivement, étape par étape, en fait, quand il y a une qualité de rythme qui s'installe à travers la respiration, voilà, je propose une progression pour garder cette qualité, garder cette attention de sensation et de rythme respiratoire et d'aller vers du mouvement libre. Et ça crée un effet collectif assez puissant parce que on rentre en danse, mais avec cette qualité d'écoute intérieure qui fait que, du coup, on s'écoute mieux, donc on ne va pas faire des mouvements qui vont aller à l'encontre de notre organisme, en fait. Quand on reste à l'écoute, on va naturellement des mouvements qui vont plutôt ressourcer. C'est là, après, il y a tout un dosage un peu subtil entre la musique qu'on va proposer, parce qu'évidemment, si on va proposer une dynamique, ça va dynamiser l'énergie du groupe, etc. Et de là, moi, je propose cette phase-là, en fait. Je parle d'exercice de l'oiseau, d'ouverture des ailes, et je vais vers une danse du souffle. Et petit à petit, on peut, à partir de ça, on peut aller vers une écoute à deux, comment on danse comme ça à deux, en fait.
Alors, c'est donc là où l'interaction après.
Voilà, ça c'est ce qui va vraiment faire après la distinction du Qigong traditionnel, là, vraiment, on rentre dans le monde de la danse. Et là j'ai beaucoup été influencé par j'ai beaucoup, encore une fois, dansé dans le monde aussi des danses traditionnelles, danses de couple. Et comment on passe une danse de couple en contact et une danse de couple sans contact. Et c'est là où c'est tout l'intérêt, en fait, de. Quand on a quelques exercices, donc j'ai quelques exercices intermédiaires qui permettent de. Par exemple, vous voyez, si je vous montre un exercice d'ouverture, de respiration, d'ouverture, il y a plein d'exercices comme ça qu'on peut faire seul et qu'après on peut synchroniser à deux. Et quand on prend le temps juste de faire cette synchronisation, ce travail de rêve, et qu'on va ensuite vers une exploration à deux, on peut vite, par imitation, se suivre dans des mouvements qu'au début on contrôle, et après on se laisse aller aussi par l'ambiance musicale, la tierce force, en fait, du duo. Ouais. Ouais. Et là on arrive vraiment à des formes qui, pour moi, en fait, oui, aujourd'hui ça m'anime beaucoup, parce que je vois que déjà quand on rentre comme ça, j'ai beaucoup de gens qui pensent que, en fait, la danse c'est pas pour eux, qui pensent qu'ils pourraient pas danser, et en fait quand on rentre par le Qigong, tout est possible, en fait, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grande technique pour danser. Et le deuxième phénomène, c'est quand on garde cette qualité, ça crée et quand le groupe est bien en confiance, qu'on a beaucoup pratiqué, on prend le temps après de se regarder, et ça crée des images assez émouvantes, quoi. Vraiment, parce que si on rentre dans cette qualité d'écoute intérieure, qu'on pose la même attention dans la relation duo, et après on joue le trio, par exemple, ça a créé des histoires, en fait, assez naturellement, comme quand on fait de l'improvisation théâtrale ou danser. Sans rien dire, une histoire se crée, une relation. Et quand on regarde ça, il y a plein d'images, plein de choses qui viennent, en fait. Et là, on rentre dans le phénomène aussi de l'art et du mouvement poétique, pour le coup. C'est-à-dire qu'il y a une poésie qui se met en place et qui nous touche émotionnellement aussi. Moi, je dis que des fois, en stage, quand je présente la situation finale où on est en cercle et on danse chacun en groupe devant... Il y a des moments qui sont très forts, parce qu'il peut y avoir des moments de vulnérabilité, ou des fois des moments de tension, enfin des duos qui sont un peu dans le rapport d'opposition. Mmh. Et ça se fait toujours avec bienveillance. Enfin, il y a une espèce de jeu aussi, hein, c'est très joué. Et en même temps, ça vient exprimer des choses à un moment donné qu'on a besoin d'exprimer dans la relation. Et que le groupe vit en même temps. Et donc ça vient exprimer des choses pour le groupe. Que d'autres n'auraient pas osé exprimer, en fait, mais comme on a tous pratiqué ensemble, en fait, c'est là où ça crée du lien, en fait. C'est fou, le corps, comment ça crée du lien. Très rapide.
Et ça, c'est le truc de la danse, quoi. Vraiment.
Voilà.
Les beaux stages, on les trouve où, les...
Alors, les stages, ma foi, je pourrais vous laisser, mais je sais pas, mes coordonnées ou comment.
Un site internet.
Si, j'ai un.
On peut s'inscrire.
Alors, j'ai dégagé, je peux faire ça, je peux vous laisser. Bon, j'ai une page, j'ai un site, mais qui est encore en anglais, Qidance, mais sinon, si vous regardez Facebook, qui s'appelle La Danse du Souffle, Okay. J'ai une page où je mets tout. Mm-hmm. Et j'ai un groupe WhatsApp, j'ai un groupe Signal, voilà, c'est un peu, c'est un peu les infos.
Mais vous faites des ateliers régulièrement dans la région là?
Alors, je fais beaucoup de stages un peu partout en France, en fait. Là, j'étais en Bretagne la semaine dernière, sur Paris. Et sur Lyon, ça fait 2 ans que je suis là, et je commence tout juste en fait à regarder. J'avoue que je suis je regarde s'il y a des salles. C'est pas si facile en fait dans le coin de trouver des salles.
Mm-hmm. Oui, donc, je pense que c'est très difficile.
Voilà, je constate ça en fait. Au fur et à mesure.
La rue, je sais jamais.
Alors oui, on m'a parlé de ça, la rue.
Je pense que
Buteau
et
Agalère.
La ruche est assez ouverte, elle est très belle, cette salle, elle est très puissante.
Avec plaisir, si je... J'ai peut-être un aussi au lieu, il y a un truc qui s'appelle la Croix-Rousse, qui s'appelle le
lieu. Ah oui, bien sûr.
J'ai bouché un petit, apparemment c'est pas grand. Mais avec plaisir de vous faire passer l'info.
Vous faites un atelier sur Lyon, là.
Et puis pourquoi pas, voilà, en lien avec le Ethnocafé, voilà, qu'on en parle. On en parle, mais trouver des espaces, voilà, je suis super.
Parce que là, vraiment, on peut
ça pourrait même être ici, pourquoi
pas. Ah bon,
On en reparlera. Oui, parce qu'on a, en fait, on a des formations d'expérience, effectivement. Ouais. Voilà, enfin, on essaye toutes sortes de choses, donc l'aroma, l'ostéo, et c'est vrai que moi, je ne suis pas contre inclure effectivement d'autres pratiques. Il faut que, évidemment, j'en parle à Jean,
mais en plein air.
À voir, par rapport au lieu.
C'est vrai qu'on a un moment, j'enseignais aussi dans les parcs, c'est vrai que les parcs, c'est quand il fait beau, c'est magnifique.
Forcément, en pleine nature, c'est super.
Oui, mais là, ça devient un peu difficile danser en plein air. C'est pas comme le Qigong.
Non, mais pas au niveau du senti. Avec un vent qui vous caresse.
Pas au niveau du senti, au niveau du rapport avec l'extérieur, le regard, etc.
Ah, c'est vrai.
Moi, avec mon groupe de Vidanza, au parc de la Tête d'Or, on a fini une soirée après un pique-nique en dansant. Et là, c'était presque le scandale sur la pelouse. Ça fait peur. Les gens ne sont pas habitués à un mouvement au niveau du corps.
C'est sûr que ça choque personne de voir des gens faire comme ça. Mais par contre, de voir des gens faire comme ça, elle est tarée.
Et puis des gens qui font la ronde en se prenant par la taille et puis qui se balancent gentiment, etc. Tout le monde disait.
Lyon est la ville de la Biennale de la danse.
Les
espaces publics, ça, sont pas forcément investis.
Oui, il y a du tapis, ça se fait.
Est-ce que quelqu'un veut partager autre chose ou
Merci beaucoup.
Et ben du coup je propose qu'on s'arrête ça.
Oui c'est ça. Alors c'est pas celui-là mais oui c'est
la prochaine fois.
Est-ce qu'on peut acheter le livre?
Mais comment payer?
Alors oui, bonne question. Tu veux dire quelque chose avant Liane?
Non mais moi j'allais repartir sur mes histoires d'immobilité, de disponibilité intérieure. Donc on va rester là sur
quelque chose de plus concret. Le débat.
Non, parce que c'est vrai qu'il y a une telle résonance avec. C'est pour ça que cette question m'intéresse autant avec la poétique. Parce que là ce que tu disais, c'est que ça crée finalement un espace de disponibilité intérieure pour construire finalement un imaginaire de la corporéité. C'est vrai que pour moi la poésie, ce renouvellement en fait du regard, du rapport aux choses, ça exige un ralentissement pour qu'un mouvement plus profond quelque part puisse émerger. En fait, c'est comme si on était dans un train. Moi, c'est parfois la sensation que ça me fait, c'est on est dans un train puis on voit le paysage défiler à toute vitesse. Ça, c'est nos mouvements de surface en fait, un peu frénétiques. Et en fait, dès qu'on s'arrête, tout à coup, il y a d'autres détails qui se manifestent à notre conscience en fait. Et voilà, pour moi, il y a une nécessité de la lenteur. Pour poétiser l'existence et pénétrer en fait, c'est tout simplement une question de pénétration, voilà. Enfin, c'est pour ça que j'insiste là-dessus parce que moi c'est vraiment une question qui m'intéresse vraiment et je vois que la lenteur crée le mouvement mais
créer un autre type de mouvement aussi. Enfin bon, mais là, on reprendrait le débat, donc je vais pas...
Je me permettrai de te rajouter dans ce cas-là l'immobilisme, penser l'invisible. L'immobilisme, en fait, amène justement ce que vous expliquiez, effectivement, une effervescence, mais une prise de conscience, en fait, et une relation, et j'en regarde, c'est même à loin, le cosmos.
Oui.
Et en fait, il y a tout cet invisible qu'on ne connaît plus déjà et qu'on ne connaît pas dans nos sociétés aujourd'hui, même occidentales, et qu'on ne connaît plus à l'heure contemporaine où plus personne ne se touche, ne se regarde.
Oui, c'est ça. Tout à fait.
Et je veux juste témoigner de ça dans ce cas-là, puisque bon, je me retiens depuis tout à l'heure.
Je te sentais, Diana, en ébullition.
Non, c'est parce qu'en fait, moi, depuis un an, j'ai découvert la pratique de la danse contemporaine, mais ça a été un concours de circonstances. Aujourd'hui, c'est, j'en ai en train de sauver ma vie, parce que j'ai des douleurs chroniques et une maladie dégénérative. Mais je ne pensais pas que ça allait donner autant de vie et autant d'engouement. Et finalement, dans l'émotion, faire prendre conscience qu'on n'a plus aucun contact au collectif, à l'autre. J'ai eu un atelier la semaine dernière, justement, de 5 heures de danse contemporaine, où il nous a été demandé, en fait, sans qu'on se connaisse, je ne sais pas, au hasard, par exemple, de se regarder en premier pendant 2 minutes, de regarder l'œil gauche de la personne, l'œil droit, d'imaginer ce qu'elle a derrière son crâne, et à un moment donné d'enclencher en fait le regard sans ne rien changer au niveau du visage, d'enclencher la bienveillance, d'enclencher l'amour, d'enclencher la colère, la tristesse. Et la personne avec laquelle je l'ai fait, le matin, nous avait témoigné comme quoi elle avait eu de la colère, qu'elle n'était pas prête à être là. Et quand la bienveillance a été enclenchée, en fait, cette personne a pleuré. Et l'immobilisme, c'est cette force. En fait. Nous étions immobiles à nous regarder. On n'a pas parlé, on a... Et à un moment donné, il va avoir une émotion qui va jaillir. En
fait. Oui, c'est ça. Et donc,
c'est cet invisible...
Et donc, parce que toi, tu as beaucoup parlé de... Non, je sais pas, toi, mais peut-être d'autres, de stagnation. Et puis, on associe beaucoup, justement, je trouve, l'immobilité à une forme de stagnation. Et pour moi, justement, c'est tout l'inverse.
C'est tout l'inverse.
C'est ce qui va permettre le mouvement, mais à un niveau d'accueil, finalement.
De connexion, de
oui, c'est ça.
De symbiose. Quand on va voir même un spectacle de danse, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai une boulimie de spectacle de danse parce que, en fait, j'ai besoin de transposer au niveau de mon cerveau est-ce que ce que je ne peux pas faire parce que mon corps est en train de se perdre, l'autre va danser pour moi. Eh bien, l'émotion et l'énergie est une force. Et à l'Opéra de Lyon l'année dernière, il y avait une pièce en fait de 4 minutes 27 où pendant les 2 premières minutes, la personne, une femme, est arrivée en fait sur la scène et a regardé le public. Et je me suis dit, bah, à ce prix-là, quand même, 2 minutes à rien faire. Moi, j'étais novice sur ça. Et en fait, à un moment donné, on a été plusieurs à pleurer. Elle ne faisait rien, mais l'intention était là. Quand on danse, ce que vous disiez avec les fascias, c'est ça. On donne aussi l'intention. On s'envisage, on est en présence quand on commence à danser.
L'espace vide, l'espace bleu.
Totalement.
C'est le théâtre aussi. C'est Peter Brook.
Ça rejoint toutes ces formes artistiques.
C'est plus une histoire de présence,
oui, de présence
que de s'arrêter en fait.
Ah oui, voilà, c'est ça.
Parce que dans le métro, on est tous statiques et pourtant on sent peu une présence comme on en parle là, cette présence là. C'est plus une histoire de présence, mais c'est vrai que la présence, déjà sa propre présence, effectivement on peut la rencontrer dans un ralentissement et jusqu'à peut-être presque un arrêt qui n'existe pas en fait, puisque
c'est ça.
Mais après, c'est vrai qu'en deux présences se rencontrent.
C'est magique, moi je vous
souhaite. La présence qui fait le signe des grandes danses, effectivement, et qui fait la. Il y a quelques mois, j'intervenais au CCN de Rive-la-Pape, en atelier. Et je crois que c'est les danseurs, enfin le monde de la danse aujourd'hui, les danseurs qui vont vers ces pratiques viennent aussi enrichir cette dimension intérieure en fait. C'est le tout à fait. Le rayonnement, en fait, sur et c'est ce qui va faire des beaux spectacles. Je pense qu'on peut, on peut voir des choses magnifiques, en fait, qui vont nous laisser indifférents. Et des fois, il se passe peu de choses et ça vient... Il y a un truc qui se fait, qui vient nous toucher.
L'observant, observer, c'est dans les deux sens.
Et je crois que, voilà. Et dans la culture chinoise, mais je trouve que ça... On dit d'un spectacle, quand il y a un art et touchant, il a du souffle, quoi. Enfin, et c'est ça, quoi. Il y a un souffle qui nous traverse, quoi. Il y a un truc qui dépasse juste la représentation, quoi. Il y a un truc qui est véhiculé.
Ça vous coupe le souffle.
Et voilà. Exactement.
Mais c'est vrai qu'il y a, avec ce que tu dis, on peut vraiment se dire, mais comment notre société, elle a tout fait pour surtout qu'on ne puisse pas s'arrêter, en fait. Parce que c'est tellement...
C'est dangereux.
Une bombe humaine, en fait.
C'est même la réflexion.
Et donc, à quel point c'est fait exprès de qu'on ne puisse surtout pas s'arrêter, en fait, ou ralentir.
Je trouve qu'il y a une réflexion à avoir autour de la limite et de l'illimité, en fait, parce qu'en entendant le début de... Moi, j'ai jamais vu la limite du corps humain avec notre vision de là, en fait, qui est hyper limitée, en fait. C'est anatomique, et puis les médecins spécialistes qui sont capables de soigner qu'un bout de doigt, moi, ça me... Comment on peut soigner qu'un bout de doigt? C'est hyper limitant. Et en même temps, l'autre médecine qui est dans l'illimité avec le souffle et tout ce qu'on ne maîtrise pas, avec l'invisible qu'on ne connaît pas. Et inversement, dans notre monde, on est un peu dans l'illimité à courir tout le temps. Et il faudrait qu'on se remette aux limites. Et du coup, c'est comment on articule tout ça. Je trouve ça... On est tout inversé, en fait. On sait qu'on marche sur la tête depuis quelques temps.
On marche sur la tête.
Mais des fois, il faut des spécialistes du doigt. Parce que quand on s'est fait... écrabouiller la main, on est bien content qu'il y ait quelqu'un qui soit plus spécialiste de la main et qui soit capable. Non, mais c'est vrai, je dis juste.
Je suis bien d'accord.
Ouais, mais en même temps,
il faut aussi,
le
spécialiste du. En fait, moi, je suis médecin généraliste et j'ai plein de patients que j'envoie chez le spécialiste. Ils vont pas mal, mais je prends mon petit avis et le spécialiste a une parole qui dit bon, bah là, vous en avez pour 3 mois. Alors que le patient était en mouvement, la parole du patient, du médecin, le stop dans son souffle personnel, en fait, ça n'existe plus, c'est la grande parole du médecin. Et donc, comment le médecin du doigt peut savoir tout ce qui va nourrir le petit bout de doigt? Moi, c'est ça, c'est quand même très limitant, et ça peut être plus que limitant même pour le patient, quoi. Donc oui, au spécialiste,
mais... Mais c'est pour ça, ça me paraît intéressant.
Je parlais en termes de technicité, effectivement, pas en termes de soins, en fait.
Ouais, non, mais c'est ça. Et
il y a la technicité du soin est complètement différente.
Mais là, on est dans une déviation quand vous disiez le médecin ne touche plus, évidemment, parce qu'on est dans l'hyperscience. Maintenant, on fait une radio, donc on n'a plus besoin de toucher, on n'examine plus, on ne regarde plus.
On voit même plus le médecin qui passe le scanner. Moi, j'ai passé un scanner il y a 15 jours. Je n'ai pas vu le médecin qui doit faire le diagnostic. Je n'ai vu que la manipulatrice. Et j'ai fait mon scanner en 8 minutes. Il a fallu que je me dégage très vite, j'étais même pas habillée. Et là, on a peur.
Est-ce que tu as demandé à voir le médecin qui fait le scanner?
On m'a dit, s'il y a quelque chose, il vous appellera au téléphone.
Moi, je demande tout le temps.
À la clinique de Rigneux.
Pour vous,
Ah ben, pour la médecine. Mais après, on fait la médecine qu'on a envie, auquel on croit. Mais les dérives sont. On est vraiment dans cette hyper technologie où on n'a plus de contact, on ne palpe plus. Ça dépend.
C'est pour ça que ce sera vraiment intéressant que ces deux espaces se rencontrent finalement et de trouver un point d'accroche, de ralliement, de convergence entre toutes ces pratiques qui chacune a aussi quelque chose de. D'essentiel à apporter, je pense, mais le problème c'est que c'est des pratiques qui sont un petit peu isolées, j'ai l'impression, chacune.
C'est heureux que ça vienne à la fac, quoi. Moi, j'avais pas ça à la fac.
C'est pour ça, là,
j'ai l'impression
que ça devient de plus en plus poreux, justement. Et...
Après, il faut être curieux,
Aussi,
moi, Maquinelle est très curieuse, et je pense qu'aujourd'hui, elle arrive à bien lire parce qu'elle est allée plus loin que le système en
l'occurrence. Il y a vraiment cette lutte, moi, je trouve, entre deux mondes, quand même, parce qu'on vit dans une hyper, quand vous dites on n'est plus examiné, on n'est plus. Oui, c'est ça, puisqu'on n'examine pas, on fait une bio. Un scanner, une radio, on prescrit.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Et après, on prescrit du médoc parce qu'on est des grands consommateurs. L'humain est pour et tout l'invisible n'a pas sa place, et sous le souffle en fait du patient avec
les deux contre le Covid.
Et après, il y a un problème social, et là on retombe dans le politique, c'est-à-dire que si on a une distance par rapport à tout ça, et qu'on réfléchit un peu et qu'on dit, bah moi je veux faire d'autres choix pour me soigner, et ben on paye très cher. Et si on n'a pas les moyens, comment on fait, quoi?
C'est
ça.
C'est sûr. En fait, on paye plus cher la simplicité, quoi.
Mais grave, hein.
Mais oui.
Alors que les médicaments, normalement, c'est tellement compliqué.
C'est rassurant, voilà.
Doc, de le fabriquer dans tous les pays que ça traverse et tout ça, ça coûte moins cher.
C'est bon, parce que la bonne distance, en fait, c'est quand même quelque chose qu'on apprend dès le plus jeune âge. Parce que je pense qu'il y a une... Enfin, là, je sens bien qu'on est tous critiques, là, de notre société, mais... on participe de ça, moi. Je vois les enseignants, à la demande des parents, par rapport à la question du harcèlement, par exemple, ils expliquent au collège à mes petits-enfants que lorsqu'on est en famille, la distance sociale, c'est 15 cm, quand c'est les voisins, c'est 25 cm, et quand c'est un étranger, c'est 50 cm. Et je vous assure, je l'ai entendu, j'ai dit que c'est hallucinant. Et il n'empêche que ça correspond à une demande aussi. C'est-à-dire,
oui, tout à fait. Une angoisse.
Parce qu'il y a eu effectivement des abus, on voit bien le rapport au corps aujourd'hui.
Oui, le rapport au corps.
Et quand même en reconfiguration quoi, complète. Alors, d'un côté, j'entends bien moi le fait que. Moi j'ai fait aussi des stages où on se touche et c'est vachement agréable parce que les espaces où on se touche comme ça, où c'est pas érotisé, c'est rare et c'est important parce que c'est tout ce que vous avez dit, mais c'est des espaces qui sont complètement cloisonnés, autorisés, qui sont pas ce que tu racontais en Chine. Et à côté de ça, la tendance générale c'est quand même la bonne distance, quoi. C'est une demande sociale. Et je peux avoir les deux demandes en même temps, je veux dire. Pour mes petits-enfants, moi, je trouve que c'est important qu'il y ait une bonne distance et qu'ils comprennent aussi.
C'est peut-être réadapter le discours par rapport à l'attitude. Enfin, il y a un truc qui...
C'est nommé aussi, je pense qu'il faut accompagner de mots, tout ça.
Ne me touchez pas, quoi. Ne me touchez pas.
Mais voilà, mais bon, elle a près d'enfants qui comprennent pas les nuances qu'un adulte peut comprendre. Enfin, comment s'approcher d'un autre adulte, enfin, d'une autre personne. Voilà, enfin, après, si tu ne poses pas des jalons assez clairs pour un enfant, c'est, mais bon, après, c'est pas pareil si tu parles à quelqu'un de 5 ans ou quelqu'un de 15 ans. Quoi. Enfin,
mais il y a une réalité qui est peut-être possible de comprendre à tout âge aussi. Quoi.
Non, oui,
je pense que...
C'est là où la danse contemporaine, elle apprend à toucher. Ouais. Dans ce contact, elle est dans ce contemporaine, elle apprend non seulement à toucher, mais elle apprend à s'équilibrer l'un l'autre. Et dans un contexte, qui est safe, puisqu'on est dans un cadre artistique, de co-création, de ressenti,
mais qui n'est pas évident.
Juste avant de partir, puisque vous parlez de différentes danses, je vous parlerai de ça en janvier, je vous propose aussi, pas de la concurrence, de la danse africaine, la Croix-Rousse. J'ai essayé